Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Avant de le lire dans Les Liaisons Dangereuses, d'Orgueil et Préjugés ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale MC de mon amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lauren King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre. Et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile aux mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants ce que je comprendrais réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours racontée à plusieurs voix. Cet été dans Passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. À très vite. Ce que vous êtes aujourd'hui, combien de temps avez-vous passé à le rêver? Sauriez-vous dire si ça correspond à ce que vous espériez devenir quand vous aviez 15 ans, quand vous en aviez 20? Et comment faire pour ne pas s'enfermer dans ce qu'on a cru vouloir, ou même dans ce qu'on a voulu, quand ce vœu a changé, et qu'il ne correspond pas à votre moi d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas là, la force de la liberté, non seulement se défaire de ce que les autres voient en nous, veulent pour nous, mais de se défaire aussi de ce que l'on a cru être et qui ne correspond plus à notre bonheur présent. Voici donc une histoire de liberté et de choix, au micro de Justine Rodier. Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passage.
Coincé dans une relation ou obligé de faire des choses, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, que ce n'est pas ajusté. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, hein, c'est de vivre en vérité, en liberté et avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et j'ai lâché prise, en fait. C'est-à-dire que je me suis laissée aller. Quelque part, il m'a permis à ce que je me connaisse encore mieux.
Depuis que je suis enfant, j'ai une vie qui est assez marquée par la foi catholique. Le dimanche, on va à la messe avec mes parents. Je fais du scoutisme, je suis enfant de cœur, je fais du catéchisme. Voilà, donc je grandis dans une éducation, on va dire, religieuse chrétienne.
Alors, je suis né dans une famille pratiquante et croyante. Et donc, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, ma confirmation, enfin, tout le tintouin. Tous les dimanches, on allait à la messe avec mes parents. Enfin, c'était quelque chose de très, très important pour eux. Dans ma famille, il y a toujours eu des prêtres, même des bonnes sœurs, enfin, qui venaient régulièrement chez moi. Et du coup, pour moi, c'était des êtres humains, tous les gens comme les autres amis de mes parents qui venaient à la maison.
Vers l'âge de 16-17 ans, là, je commence plutôt à me poser des questions sur le sens de ma vie. Et puis avec un peu un désir d'absolu, un désir de un peu héroïque de faire des grandes choses. Et comme j'aime les défis, je me dis je veux devenir quelqu'un de bien, faire de grandes choses, de belles choses pour les autres. Et voilà, et je commence à me poser des questions sur un engagement plus radical. Dans ma paroisse à Paris. Là, il y a un prêtre qui s'occupait un peu de tous les groupes de jeunes des différentes paroisses. Donc, il m'invite à aller dans un week-end en abbaye. Et lors de ce week-end en abbaye, il y a une soirée de prière le samedi soir. Et puis, lors de cette soirée de prière, chacun, s'il le souhaite, peut aller rencontrer le prêtre. Ce que je fais, on est dans une petite salle où lui est habillé en prêtre. Donc il a une aube et une étole violette. C'est l'habit pour la confession d'ailleurs. Hein. On est un peu dans une situation de confession, hein, on pourrait dire. On est tous les deux. Et à ce moment-là, il me pose la question en disant « Est-ce que tu as pensé à être prêtre ?» Voilà. Et donc là, je lui dis « Oui ». Je lui dis « Oui ». C'est la première fois que je le formule. En sortant de cette pièce, je sens que je passe à ce quelque chose de plus radical dont j'avais pensé avant. Là, je franchis un cap, quoi. Ça devient quelque chose d'envisageable. J'ai besoin de me retrouver seul. Et là, je m'assois sur un banc et je me dis « Waouh, qu'est-ce que tu viens de dire, quoi ?» Je suis avec cette question-là et en même temps, j'ai réussi Sciences Po. Donc, je quitte le foyer familial et je commence mes études à Sciences Po. Je suis plutôt entier dans ce que je fais, donc je plonge pleinement dans la vie étudiante. Les soirées étudiantes, les copains, les copines. Donc, à ce moment-là, j'ai des petites amies. Je suis un peu dissocié, hein, finalement, entre deux choses. J'ai 18 ans, 18-19 ans à ce moment-là. Et il y a toujours ce prêtre que je vois régulièrement, une fois tous les deux mois, quoi. On se retrouve pour faire un point sur cette réflexion. Il a à peu près 20 ans de plus que moi. Quelqu'un qui a un contact très facile, qui est très à l'aise dans la parole. Il y a quelque chose, peut-être une sorte de fascination par rapport à ce personnage. Parfois, j'ai des hésitations ou des doutes, et c'est aussi renoncer à une vie de couple, à une famille. Mais il y a une forme d'idéalisme qui me pousse, qui est une sorte d'héroïsme finalement, qui est de dire oui, je suis prêt à renoncer à plein de choses pour quelque chose de bien plus grand. Donc en 1999, je rentre au séminaire, j'ai 22 ans. Donc là, c'est un passage à une autre vie. Hein. Le séminaire, c'est un vieux bâtiment du XVIe siècle, qui était un ancien couvent. C'est d'ailleurs un lieu qui, à partir de la Révolution, est devenu une prison. Donc, c'est des grands couloirs avec des petites cellules. C'est assez austère comme cadre. Hein. On est chacun dans notre petite cellule, on va dire. Mais en même temps, c'est... parmi les séminaires qui existent en France, c'est un de ceux qui est un des plus libéraux, quoi. Si on veut sortir, on peut sortir. Si on a envie d'aller se balader, on va se balader. Si, voilà, donc y a un cadre, il y a une vie de communauté, mais en même temps, on a certaines libertés et que l'on prend, quoi. Et donc, le séminaire dure 6 ans. J'aime travailler intellectuellement, je suis un amoureux des livres, donc c'est un temps où je peux m'y donner à fond. Ce qui est un peu plus dur, c'est quand même la vie entre gars, H24, avec des personnes qu'on n'a pas choisies, même s'il y a des affinités, des amitiés qui se construisent avec certains, on va dire, séminaristes. C'est un peu douloureux, donc j'ai hâte de pouvoir enfin rentrer dans le monde, et donc j'ai hâte de sortir du séminaire.
On est en 93 et j'ai 19 ans. Je rencontre mon futur mari et le futur père de mes enfants. À ce moment-là, j'habite encore chez mes parents. Lui a déjà une situation plus que confortable et voilà. Et effectivement, il a 24 ans. Donc on a 5 ans d'écart. Il est un de mes professeurs en fait. C'est un de mes professeurs de musique. On commence à se fréquenter. Je tombe enceinte. Et là, à ce moment-là, ma mère me dit. Qu'il faut que je me marie. Enfin, c'est pas possible autrement, quoi. Ça va très vite. Et en fait, je me marie 4 mois après avoir découvert que j'étais enceinte. Je fais des études de musicaux durant 2 ans. Peu de temps avant le moment où je dois passer mon diplôme, en fait, mon mari me dit que c'est pas la peine parce que son salaire étant assez conséquent, on peut arriver à vivre sans que j'ai une activité professionnelle et que m'occuper des enfants c'est bien.
Je suis ordonné prêtre. Donc, je suis envoyé dans une paroisse. Enfin, je peux exercer le ministère de prêtre. Et en même temps, ça devient vite très difficile. Ce prêtre avec qui je suis est très autoritaire. Je me sens un peu contrôlé dans tout ce que je fais. Il se trouve qu'en plus, on est sur un même étage, donc on n'a pas vraiment d'indépendance. C'est assez compliqué. Et puis, tous les repas qu'on peut passer ensemble sont des moments finalement d'évaluation, quoi. Je commence même à physiquement développer des pathologies d'angoisse. Pour le coup, c'est un peu un effondrement. D'ailleurs, un dimanche matin du mois de septembre, ça fait 2 ans que je suis avec lui sur cette paroisse. Je dois aller célébrer la messe dans une des 2 églises de la paroisse. Et j'y arrive pas. Je suis bloqué, quoi. Je peux pas y aller. Je suis dans mon lit et c'est impossible. Voilà, j'arrive pas à me lever. Là, j'appelle un médecin, ami. Et puis, donc là, je lui explique la situation. Et puis, lui est assez clair. Il me dit, mais va-t'en. Pars, prends tes affaires et quitte ce lieu.
Je suis maman au foyer. Je suis très heureuse dans ce que je vis. C'est-à-dire que je vois mon enfant qui grandit. Puis après, je tombe enceinte du deuxième. Donc... Après, le troisième arrive, puis le quatrième, puis le cinquième. Donc, tout s'enchaîne. Et quand la deuxième grandit, ça commence à être compliqué pour moi. Je me rappelle d'un dîner en particulier. Je ne me souviens plus du menu exact, mais je me souviens qu'en fait, ça ne devait pas être assez chaud. Et du coup, ça part tout de suite en crise, quoi. Le père des enfants, il est capable de prendre un verre, de le balancer, pareil, de lancer une assiette, ou tout ravager sur son passage, enfin, au niveau des couverts, etc. Quoi. C'est ça le quotidien. Quoi. Ma fille aînée, pour ses études, elle part. On échange par SMS à ce moment-là. Elle me dit « Maman, personne n'a le droit de mal te parler, de te maltraiter. On ne parle pas comme ça à un être humain. » Donc là, je prends conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je me dis que je peux l'aider, que je peux le sauver, en fait. C'est un dimanche matin. Je dis que je souhaite aller à la messe. Et là, il part dans une crise monumentale et il me pousse dans les escaliers. Là, j'ai 42 ans. Dans ma tête, ça y est, quoi. C'est fini. Donc, on fait chambre à part. Et donc, là, c'est compliqué parce que j'ai pas de travail, je travaille pas. Je suis maman de 5 enfants. J'ai pas de diplôme. Et puis, j'ai honte. À qui en parler, quoi ? À qui dire, bah voilà, ce que je vis depuis tant d'années. Un jour, un mercredi après-midi, il m'appelle sur mon portable et il me dit « je quitte la maison, je déménage ». Donc en fin d'après-midi, quand je rentre, il n'est plus là. J'ai donc 42 ans et j'ai vécu 23 ans avec lui, donc plus de la moitié de ma vie. Toutes ces années-là, en fait, je travaille pour lui, c'est-à-dire que je travaille pour sa carrière. Je fais son secrétariat, je réserve les taxis, je négocie les cachets, je fais tous ces trucs-là pour lui. Il n'est plus là, il faut que je fasse des choses pour moi, quoi. Et puis mes enfants.
En 2015, j'arrive dans cette paroisse de banlieue parisienne, un peu avant mes 40 ans, ce qui veut dire que ça fait 15 ans que je suis prêtre et que je suis passé un peu de paroisse en paroisse. Il y a un prêtre, quand j'arrive, qui est un peu un ancien, donc qui est, pour le coup, qui change beaucoup par rapport à une figure d'autorité, parce que c'est quelqu'un de très, très fraternel, très bienveillant. Je me dis que ça va, que je vais enfin respirer. Et en même temps, je retrouve aussi certaines logiques de contrôle, de surveillance. Mes allées et venues sont contrôlées. Par exemple, c'est ce paroissien qui dit « Ah tiens, j'ai vu que ta voiture était pas dans le parking. Ben oui, j'étais pas là, tout simplement. D'ailleurs, on invente plein de choses sur le fait que je suis parti je ne sais pas où. Voilà, donc pour moi, c'est toujours des choses qui sont très agressives.
Je m'investis beaucoup dans la paroisse. On me propose de gérer un groupe des enfants de cœur, en fait. Puis je suis à l'accueil aussi de la paroisse, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, ben, j'accueille les gens qui veulent lui demander le baptême, qui ont besoin de parler, des mariages, enfin, plein de choses, quoi, du secrétariat, en fait, un peu. Ça me fait du bien d'être là-bas. Et... C'est vrai que tout le monde me connaît, je connais beaucoup de gens, quoi.
En 2017, ça fait un an et demi que je suis dans la paroisse. On est un samedi du mois de début avril. Hein. Il y a une première famille, il y a les deux parents avec l'enfant dans la poussette. Et puis, une jeune femme qui vient toute seule hein, pour préparer le baptême. Je remarque assez vite que cette jeune femme est beaucoup plus impliquée pour l'organisation du baptême, pour le livret de la célébration, les chants, puis très assez enjouée dans sa manière d'être.
C'est-à-dire que moi, j'ai pris les choses en main parce que c'était quand même mon cinquième enfant. Donc, c'est-à-dire que moi, les baptêmes, j'en avais déjà organisé quatre. Très vite, je prends les choses en main. Et puis, de toute façon, l'autre maman, elle était bien contente que je les prenne parce qu'en fait, elle n'avait pas vraiment envie de s'investir là-dedans. Donc, je me mets à faire le livret de chant, le livret des textes, etc. Pour être sûr que ça colle bien, qu'on aille bien dans la même direction, dès que j'avançais dans mes recherches ou dans ce que j'envoyais la copie au Père Gilles, par mail.
Claire, puisque désormais je sais qu'elle s'appelle Claire, ne me regarde pas comme un personnage à moitié céleste, en dehors de la réalité. Je sens bien que dans notre échange, les choses sont simples. Moi, j'aime bien faire mon footing. Hein, donc, il arrive régulièrement, plusieurs fois par semaine, que je sors en tenue de sport pour aller faire mon footing. Et quand je croise des paroissiens, j'ai l'impression de sortir d'une autre planète, quoi, d'être un peu l'extraterrestre qui est arrivé là sur Terre. Je suis en short, en t-shirt, en basket. Et donc... les gens sont, enfin, l'impression qu'ils ont une apparition parce que d'habitude ils me voient en aube, en étole, dans l'église, quoi. Comme aussi les moments où je fais mes courses, ce moment où je rencontre une paroissienne dans le rayon du supermarché et qui me dit « Ah, vous faites vos courses ?» Et je dis « Ben oui !» Et là, elle se reprend et dit « Ah bah oui, c'est vrai, faut bien manger. » Voilà, donc c'est ce type de moments qui peuvent porter à sourire comme ça, mais finalement lourd à vivre parce que bah, on est considéré comme un autre que l'humanité ordinaire, quoi.
Étant donné que dès petite, moi j'allais sur les genoux des amis prêtres de mes parents, je leur tirais la barbe pour ceux qui avaient la barbe, je les déguisais, je les maquillais, enfin voilà. Et pour moi c'était un peu comme des oncles, des cousins, enfin des gens de la famille. Moi je porte sur lui un regard qui est d'être humain à être humain, quoi.
Fin juin c'est mon anniversaire et Claire m'invite à venir l'après-midi, un dimanche après-midi, pour partager un petit moment. J'arrive en retard, j'ai couru, j'arrive en sueur, c'est un après-midi du mois de juin, donc il fait chaud. Là, j'entre chez Claire, dans sa maison. C'est une atmosphère très familiale, très accueillante. Elle m'offre un livre pour mon anniversaire, qui s'appelle « La force de l'amitié ».
Je découvre quelqu'un avec lequel on a beaucoup de valeurs communes. Puis après, très vite, il doit partir. Et à partir de ce moment-là, on s'écrit des SMS tous les jours.
Donc là, il y a l'été qui arrive. D'ailleurs, elle me demande de relever son courrier, d'arroser son jardin. Et puis, moi, je pars en vacances aussi. Et on échange beaucoup. On s'entend très bien.
Un jour, j'arrive à la paroisse en pleurs. Je suis avec mes lunettes noires parce que je veux pas que les gens en marquent trop. Avec le père des enfants, même si je prends du recul, malgré tout, c'est très tendu, très compliqué. Et donc, tout de suite, Gilles me dit, viens, on va parler. Et donc, il prend le temps, il est là. Et je découvre que, on peut s'adresser à des gens sans leur crier dessus, quoi.
C'est aussi un moment où elle perçoit aussi ce que je vis moi en tant que prêtre, parce que je lui parle aussi de mon quotidien, ça choque Claire. Hein. Elle voit un peu l'envers du décor, et donc on se soutient mutuellement dans cette volonté qu'on a l'un et l'autre de sortir de formes d'emprise oppressante, quoi. On se rapproche de plus en plus, on a décidé tous les deux de transformer le bureau d'accueil. Donc, on achète du mobilier, des sièges un peu de couleur. On met un peu de gaieté dans cette paroisse très enfermée sur elle-même. On commence notre petite révolution, on va dire, dans la paroisse. Et là, on est tout de suite sur la même longueur d'onde. Quand on commence à entreprendre un peu tous les deux ces changements, la secrétaire, d'autres paroissiens commencent à nous regarder un peu de travers, quoi, parce que, on les bouscule, hein, ça c'est sûr. Puis, du coup, ils commencent à suspecter notre complicité. Quelque part, ces critiques que l'on reçoit, on les reçoit plus comme un encouragement à continuer.
Plus le temps passe, plus on est complice. Il y a deux personnes qui viennent me parler pour me dire, qui prend un air grave comme ça. Oh, tu sais, on te voit proche du père Gilles et on vous voit un peu complice, on vous voit rire ensemble et tout de suite j'ai coupé court parce que pour moi ça c'était tellement hallucinant qu'elle puisse me dire un truc pareil que j'ai mis quel est le problème, quoi. Je suis amie avec Gilles et point barre, quoi.
Il y a un moment où Claire anime les chants d'une célébration avec des enfants. On est au mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et il se trouve que ce jour-là, il y a ce prêtre qui m'a accompagné là depuis longtemps, qui est là. Et là, il me fait une remarque sur Claire en disant « Mais voilà, pour qui elle se prend ?» Puis elle avait une drôle de tenue. Donc il me décrit un portrait très négatif, hein, de Claire. Ce qui me fait mal, c'est que soit mise en question la sincérité et l'authenticité de l'amitié que nous vivons avec Claire.
Et du coup, à ce moment-là, on décide d'éviter de se voir à la paroisse. On décide de se voir dans un magasin qui est à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Et donc, on se donne des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on fait nos courses à la même heure. Et du coup, ça nous permet de passer des temps dans les rayons. Ce qui était assez drôle, d'ailleurs, parce que je me souviens d'une fois où il y avait un conseiller qui était là, enfin, un vendeur, qui passait dans le rayon. Il disait, mais vous avez besoin de quelque chose? Je vous cherchais quelque chose? Parce que ça faisait des heures qu'on était là. En fait, on avait nos caddies, posés par terre, enfin, nos petits. Et puis, on parlait, en fait. Et on voyait pas le temps passer.
Si on nous voit, par exemple, prendre un café à 10 heures du matin sur une terrasse, ça ne fait qu'amplifier sur la paroi. C'est une sorte de dénigrement, d'ailleurs, de ce que fait Claire, hein, et de jugement, parce que ce que les paroissiens n'acceptent pas, c'est que je puisse avoir finalement une vie propre, quoi. Voilà.
On passe à une vitesse supérieure malgré tout. J'ai envie de passer de plus en plus de temps avec lui. J'ai envie de, d'encore mieux le connaître. Je me prends parfois à rêver qu'il me prenne dans ses bras, enfin, des choses comme ça. Je suis pas du tout non plus dans le truc où il me faut me dire il me faut que je trouve quelqu'un, quoi. Je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Je prends du temps pour moi, je prends du temps pour me connaître mieux. Je prends du temps aussi parce que j'en ai besoin pour prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants.
Je sens que mes sentiments sont forts pour elle et que de plus en plus, j'aime tout ce qu'elle est, quoi. Je perçois bien qu'il y a deux formes d'engagement qui se côtoient, hein. Et donc, je me pose en effet la question de leur compatibilité. D'autant plus que j'ai intégré cette règle du célibat, hein, des prêtres. Je l'ai presque justifié personnellement, justifié intellectuellement. Hein, me viennent en mémoire tous ces cours du séminaire où on nous parle de la juste distance avec les femmes dans l'exercice de notre ministère de prêtre. Où il y a même eu des sessions, hein, des sessions au séminaire sur cette question-là, où on te dit de ne pas trop être proche, de maintenir la distance. Le prêtre étant plutôt en relation au quotidien avec des femmes, puisque la grande majorité des personnes bénévoles engagées dans la vie de l'Église sont des femmes, hein, même si elles n'ont pas accès au ministère. Quand on touche finalement dans l'Église à cette question-là, on touche à l'interdit le plus absolu, quoi.
Il a tout pour que je le trouve très séduisant, etc., etc. Je me dis, bah oui, mais lui, il est prêtre et il a fait ce choix de vocation aussi. Je ne vais pas le dissuader de ça, du chemin qu'il a pris, quoi. C'est peut-être un peu dingue ce que je veux dire, mais en fait, moi, non. Parce que depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, que je vois ces prêtres vivre célibataire, enfin, je me disais, mais il pourrait faire un super papa ou il pourrait faire un super grand-père, celui-là, enfin, etc. Depuis que je suis enfant, je me souviens quand je les voyais, je les regardais en train de faire l'homélie, et je me disais, mais c'est pas juste, en fait. C'est pas juste parce que pourquoi on les oblige à vivre célibataire? C'est un soir, je suis dans mon lit, je suis en train de lire, et donc là on commence à échanger et on évoque la possibilité d'une relation un peu plus intime, et il évoque la possibilité d'une relation platonique, c'est-à-dire qu'on peut s'aimer, mais sans passer, en acte, corporellement parlant, quoi, enfin, qu'il n'y aura pas de... Voilà.
Donc un après-midi, j'invite Claire chez moi, donc, ce qui est assez rare, parce qu'on essayait de fait de ne pas se rencontrer au presbytère, qui forcément est un lieu surveillé. Il fait beau, il y a un beau soleil, donc, il y a une belle luminosité, voilà. Nous prenons le thé, nous discutons, comme d'habitude, hein, de tout et de rien.
Il est habillé en col romain, tout en noir, enfin voilà. Et moi, je suis habillée avec un chemisier que je sais qu'il aime bien, quoi. Et je reste une heure ou deux chez lui. Et au moment où on doit se dire au revoir, je suis contre lui. Et bon, comme il est beaucoup plus grand que moi... Et je me mets sur la pointe des pieds et je l'embrasse. Je suis pas dans le contrôle, en fait. Comme s'il y avait une force surnaturelle qui me pousse. Je suis là et je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Juste après, je me sens très très mal. Et je me dis que je suis trop nulle. parce que je gâche tout, quoi. Il me raccompagne, puis il me dit, bon, bah, à bientôt, à très vite, ou je sais plus comment ce qu'il dit, ou à bientôt. Fin. Et donc, il referme ce portail, et après, je me retrouve dans la rue, et la première chose que je fais, c'est que je prends mon portable et je lui écris un SMS. Et je lui dis, écoute, je suis désolée, on oublie là ce qui vient de se passer.
Elle serait presque à se culpabiliser, mais on est deux, hein. C'est-à-dire que si c'est. Moi, j'ai accepté ce baiser, quoi. Voilà, et donc. Je lui réponds, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est ce qui devait se faire.
Je suis soulagée, malgré tout, de la réaction qu'il a. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait que voilà, j'ai peur d'avoir eu un geste qui entache la relation qu'on avait, quoi.
Bien sûr, je ressens quelque chose de très fort. Et je me dis, en moi, je dis oui, c'est ça, quoi. C'est libérateur parce que... y a un geste qui exprime finalement ce que l'on n'osait pas exprimer par des mots parce qu'il y avait tout un environnement qui nous l'interdisait. Là, elle brise l'interdit. Intérieurement, j'ai envie de lui dire merci, quoi, d'avoir fait ce pas-là. Pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie, oui.
Deux, trois jours après, on se revoit, là, pour le coup. Et là, il me prend dans ses bras, quoi. Et pour moi, c'est ce moment-là qui acte vraiment le registre dans lequel on se retrouve. Là, on n'est plus dans l'amitié, quoi. On est vraiment dans une relation amoureuse. Après, quoi en faire ? Quoi faire ?
On continue de se voir comme avant, mais on est quand même... encore plus prudent et attentif par rapport aux personnes que l'on croise.
On a envie de se voir beaucoup plus fréquemment. On commence à aller au restaurant, à faire des choses qu'un couple normal fait. On est obligé d'aller loin de chez nous.
À tout moment, je regarde autour de nous. Avant de nous asseoir à table, je scanne toute la salle pour voir qui est dans la salle. Et ça, je le fais partout.
Encore plus à la paroisse, du coup, on est hyper vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de plus trop, enfin, que les gens nous voient plus trop ensemble. Tout court, on fait hyper attention, quoi. Donc, on fait nos courses ensemble comme un couple normal. On choisit ce Monoprix-là parce qu'on se dit que potentiellement, il n'y a personne qu'on connaît parce qu'il est suffisamment loin de la maison. Et période de solde, et on se dit, tiens, on va aller faire un tour dans la lingerie féminine. Donc, il est à côté de moi. Et on regarde les soutiens-gorge et les petites culottes un peu, voilà. Enfin, gentilles, hein, c'est pas... Enfin, pas les sloggies, quoi, pas les trucs de ma grand-mère. Je vais lui montrer un truc, donc quelque chose que je trouve joli.
Et là, moi, je remarque qu'il y a une paroissienne et sa fille qui sont là. Je vois la paroissienne derrière Claire, quoi. Et Claire ne l'a pas vue. Du coup, je pars.
Je vois Gilles qui devient blême. Et donc là, comment dire ? Je me sens pas super à l'aise, quoi. Et donc je me dis, il faut pas que je détale, parce que sinon on va penser que j'ai fait une bêtise. Donc je détale pas.
Je descends au sous-sol où était la voiture. Et même, je me rappelle que même j'étais un petit peu perturbé. Et du coup, je prends la voiture et je recule et j'ai percuté même le caddie d'un autre client du supermarché. Et il se trouve qu'en plus, comme c'est en sous-sol, il n'y a plus de réseau. C'est très embarrassant parce que je ne sais pas si je dois retourner dans le supermarché ou l'attendre, mais l'attendre où, voilà.
Et j'essaye de me dépatouiller, puis je fais semblant de regarder ma montre. Bon, là, il faut que j'y aille, hein, parce que machin, et voilà. Et là, je pars et je suis... Je me dis, mais est-ce qu'elle a entendu ? Est-ce qu'elle l'a vu ? Potentiellement, elle peut en parler à quelqu'un.
Bon, ce qui nous fait bien rire, finalement, à la fin. Et en même temps, voilà, c'est une de ces scènes que l'on s'attend à connaître, finalement, dans les mois qui viennent, quoi.
Il y a un côté super marrant, mais pesant. Ultra pesant dans le quotidien.
On essaye de trouver des moyens de vivre notre amour totalement librement. Donc, on décide de partir en Corrèze. C'est un week-end où il neige, d'ailleurs. On arrive sous la neige en Corrèze. Il y a même une panne d'électricité tellement il y a de neige. Et donc, on est seul au monde dans une maison perdue au fin fond de la Corrèze, au milieu des bois. Et là, c'est le bonheur absolu. On est accueilli par les personnes qui nous louent la maison en Corrèze. Et ils nous voient comme un couple.
C'est une bouffée d'air frais, quoi. Parce que du coup, on est là, on peut se donner la main quand on veut, on peut faire les courses comme on veut, on peut dîner dans le resto qu'on veut. On est libre. Et c'est 3 jours hors du temps, quoi.
Puis après, le quotidien reprend le dessus. Je rentre à la paroisse. Et là, je vois bien qu'on me demande de plus en plus d'être présent, je suis de plus en plus sollicité, et donc ça devient compliqué. Et puis j'ai l'impression aussi que, comment dire, les paroissiens sentent quelque chose, et c'est comme si on essayait de me retenir.
Je suis pas du tout en train de douter de mes sentiments, mais je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de me remettre dans une histoire compliquée, quoi? Compliquée parce que je sais pas comment ma vie va pouvoir s'articuler, quoi. Comment on va pouvoir continuer à vivre? Moi, je me souviens d'une fois où je suis chez lui et je peux pas sortir de son appartement alors que ma fille sort de l'école. Il faut que j'aille la chercher et que je suis coincée parce qu'il y a la nana qui fait les ménages qui est juste devant la porte, quoi, qui est en train de passer la serpillière. Et donc ça, à long terme, c'est juste pas possible. On peut le vivre des semaines, des mois, mais des années, c'est hors de question.
Ça fait plusieurs mois là qu'on est ensemble, hein, et moi j'ai peur que les choses se savent ouvertement. J'ai peur de que je sois mis à la porte du jour au lendemain et que je sois sans situation et que voilà, ça fait 15 ans que je suis en dehors du monde du travail. Mon CV s'est arrêté, à un bon diplôme, mais ça suffit pas. Il faut aussi l'expérience.
J'ai peur du regard des autres, mais en même temps, le fait de ne pas en parler accentue l'isolement dans lequel je me trouve. Et donc, forcément, moi, ça résonne en moi par rapport à ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants. C'est-à-dire qu'un isolement d'une autre manière, mais un isolement quand même. Et donc, me retrouver seule comme ça, avec une histoire amoureuse dont je ne peux pas parler, y a des moments où c'est dur. J'ai aussi une appréhension, en fait, une appréhension et une petite peur, on va dire. Je me méfie de la gente masculine. Être tout gentil, tout beau, etc. au début, et puis très vite partir sur une pente glissante, descendante, ça reste quelque chose dont je me méfie, quoi.
Comme depuis 15 ans, je suis vu uniquement sous le prisme du prêtre, quoi. C'est-à-dire que, y compris un certain nombre d'amis, j'oserais dire presque, y compris ma propre sœur, me connaît comme prêtre. Et du coup, me connaît selon ce statut-là. Et d'un seul coup, finalement, de leur révéler finalement un autre choix que ce statut, c'est ce sentiment de casser un bout de mon identité.
Certains de mes enfants sont scouts, certains de mes enfants sont encore au caté. J'ai peur que ça ait des conséquences contre eux, qu'ils se retrouvent dans des situations, en tout cas, dans lesquelles ils sont pas capables de se défendre, en fait.
Mon caractère fait que je suis pas un homme des transitions radicales, quoi. Donc, je suis pris un peu entre deux sentiments.
J'ai peur que la relation qu'on est en train de construire soit une relation pansement, et j'ai peur qu'il m'utilise et que qu'une fois que je lui ai permis de sortir de ça, qu'il me jette, quoi. Bon, ça fait une année qu'on est ensemble, et donc l'été arrive. Qui dit été dit lui ses tâches à faire au sein de la paroisse, et moi partir un peu en vacances avec mes enfants. Mais ça me permet de me recentrer aussi sur moi, et puis de comprendre aussi tout le chemin que j'ai parcouru aussi pendant ce temps-là. Je pars notamment chez la marraine de ma petite dernière, qui a une grosse propriété en Sologne et où c'est très très agréable d'aller. Et c'est super chouette parce que c'est un peu le paradis sur terre là-bas, donc on est bien, on profite, même s'il manque notamment des couchers de soleil, faire des moments un peu où je me dis ce serait quand même super chouette qu'on soit tous les deux quoi. C'est quand même vachement mieux à deux que tout seul. Et surtout qu'en plus moi je voyais ma fille aînée qui était avec son compagnon et je me disais ils ont de la chance d'être tous les deux.
Et moi, je pars en Bretagne, dans une maison de famille. Là, on est séparés pendant au moins 15 jours, quoi. Donc là, c'est un peu difficile. Claire me manque beaucoup et je pense beaucoup à elle. Je me rappelle sur la plage où je vois d'autres couples qui sont là ensemble. Et voilà, je pense à nous et je me dis que nous pourrions, nous, être là ensemble.
On se retrouve et c'est sûr que c'est l'été, on a la peau qui est bronzée, donc on est super, évidemment, super heureux de se retrouver.
Quand on se retrouve après les vacances, c'est un bonheur total. On se le dit d'ailleurs qu'on s'est manqué l'un à l'autre.
Je me permets d'évoquer ce sujet-là avec lui. Je sais qu'il y a des femmes qui entretiennent une relation clandestine avec des prêtres et qui sont depuis 30 ans ou 40 ans obligées de se cacher, obligées de tout calculer, de tout, etc. Alors moi, pour moi, c'était hors de question.
Je la rassure totalement en lui disant que ma volonté, c'est qu'on vive notre amour ouvertement et en pleine transparence par rapport au monde et par rapport à l'Église.
C'est presque aussi beau qu'une déclaration, enfin une demande de mariage, quoi, parce qu'en fait, à ce moment-là, je comprends que on est vraiment sur la même longueur d'onde et qu'il est prêt à quitter son ministère et ça fait sauter les derniers verrous de la porte, quoi. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Il est prêt à tout.
Claire, elle est présente dans tout ce que je vis et dans tout ce que je fais. Ça me donne, j'aimerais dire, des ailes. Ouais, je me sens totalement moi-même. Tout ce qu'on vit ensemble ne vient que faciliter ce que je vivais péniblement et durement avant dans ma paroisse, quand je me sentais un peu contraint et enfermé par ce qu'on attendait de moi. Beaucoup de choses prennent leur sens. Je comprends que j'ai fait des choix très jeunes, radicaux. Et je me suis construit finalement un personnage. Je suis rentré dans un personnage. Et j'étais jusqu'au bout de ce bon personnage. Et en fait, là, je me retrouve pleinement. Pour moi, à 40 ans, je me permettais enfin de devenir pleinement libre et libre d'aimer.
D'un seul coup, j'ai quelqu'un qui me pousse à faire des choses à l'extérieur et qui me pousse à faire des choses tout court, en fait. Pour les enfants, effectivement, je ne voulais pas les traumatiser, entre guillemets, en leur imposant la présence d'un homme, sachant qu'en plus, ils le connaissaient par ailleurs. On a fait ça vraiment à dose homéopathique, donc dans un premier temps il venait déjeuner, après il est venu de plus en plus souvent déjeuner, puis après il est resté dîner. C'était 2020, donc nous on est partis en vacances tous ensemble, comme une famille normale quoi. On a pris des tentes, on s'arrête dans les campings, on vit une super belle vie de famille, comme moi personnellement je l'ai jamais vécu quoi.
Aujourd'hui un grand nombre de nos amis sont au courant. Enfin, sauf un certain nombre de personnes qui, je pense, par leur conviction religieuse, n'arriveront pas à comprendre ce choix de ma part. Par contre, nos amis, nos familles sont au courant et c'est vraiment libérant.
Les gens de la paroisse m'ont évincé d'un tas de choses, d'un groupe WhatsApp qui permettait d'avoir des liens entre les gens. On m'a retiré... justement de la responsabilité des enfants de cœur, on m'a retiré, je faisais l'accueil à la paroisse, j'ai tout découvert comme ça, toute seule quoi. Et ça me fait d'autant plus mal que c'est dans une paroisse.
Ça fait un an et demi avec Claire que j'ai emménagé chez Claire, même si actuellement je suis censé vivre dans une paroisse. Mais j'ai dit à mon supérieur hiérarchique, hein, l'évêque, que je ne souhaitais pas continuer à vivre en paroisse, sans pour autant en donner toutes les raisons. Dans 2 mois, il sera officiel, hein, que je quitte mon ministère. Pour l'instant, je prépare ma reconversion professionnelle. Donc, il y a tout un temps de préparation pour avant de partir, parce que on n'est pas forcément attendu sur le marché du travail. Donc, on n'a aucun statut. Donc, j'ai pas de droit au chômage. J'ai un statut particulier partout. Même le statut de la sécurité sociale est un statut particulier, donc il faut reconstituer, on va dire, une vie normale. Voilà, il y a 3 ans, je vivais encore une vie assez solitaire. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire la cuisine pour tout le monde de temps en temps, enfin régulièrement. De pouvoir se balader sur la plage en famille quand on part au bord de la mer. De pouvoir... aider les enfants à faire leurs devoirs, jouer ensemble, rire ensemble. Voilà, c'est des petites choses du quotidien. Et je pense de l'humanité la plus simple, et qui m'était simplement impossible, voire interdite.
Là, j'aimerais pouvoir donner des cours de piano. J'aimerais que ma situation, que mon divorce soit prononcé et que je puisse me marier avec Gilles. Voilà ce dont je rêve là actuellement.
L'interdit que j'avais intégré, et que, voilà, je m'en étais fait une discipline très, très forte. Aujourd'hui, je vis très, très librement. Une liberté qui est une sorte d'épanouissement de moi-même avec ceux avec qui je vis et avec ceux que j'aime. Je pense que je n'ai jamais eu autant de ma vie le sentiment d'être libre, ouais.
Après tout ça, c'est évident que ma vie, je l'ai choisie en fait.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Justine Rodier. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. La musique était de David Stank et la réalisation de Lucie Lossel. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Girard responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, beaucoup de commentaires, et des étoiles, et en parler autour de vous, à vos amis, vos abonnés sur Instagram ou à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis 2 mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une 50aine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.